chers auditeurs, chères auditrices de Mai de Résistance, Radio Galère 88.4. Aujourd'hui, une émission spéciale sur la médiathèque Pompidou, qui contient en son sein, en ce moment, une exposition sur un mode de transport complètement inédit dans l'histoire, le CBR. Alors, je suis avec Pierre Gandil, bien sûr, à la médiathèque, vous vous doutez bien. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, et je sais que nos auditeurs aiment beaucoup tes émissions parce que c'est très détaillé, et assez méticuleux et sérieux.
Je vais rougir, mais ça ne se verra pas à la radio, tout va bien.
D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez organisé, je pense que tu es fortement partie prenante de cette exposition, comme d'autres, une exposition sur le CBR, qui est un moyen de transport qui a été beaucoup utilisé au début du XXe siècle dans la Marne. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, CBR ?
Alors, donc déjà, pour répondre à ta première question, l'exposition a été faite par le service des patrimoines écrits et bâtis de Châlons, donc par moi-même et par ma collègue, donc directrice des archives municipales et directrice du service, et en partenariat avec l'association de modélistes, mais ça on va y venir dans un instant. Parce que pour l'instant... excuse-moi, je te voyais... Je continue ? D'accord. Pour l'instant, l'exposition CBR, donc, elle nous parle de ce moyen de transport. Donc CBR, ça veut dire chemin de fer de la banlieue de Reims. Donc CBR. Alors, chemin de fer de la banlieue de Reims, quand on visite cette exposition, on pourrait se demander pourquoi on fait une exposition à Châlons. Le CBR passé à Châlons, et en fait il est passé ça correspond à une époque où ce CBR s'était étendu au-delà de la seule banlieue de Reims.
Alors, qu'on soit bien clair, nous qui habitons à Châlons, on connaît bien, mais à cette époque-là, comment était Châlons par rapport aux autres communes ? Et si tu veux bien, Pierre, j'aimerais qu'on aille voir ce fameux plan de circulation qui est très intéressant parce qu'il met en avant beaucoup de communes principalement de la Marne, donc on est même dans la vallée de la Marne, on va dire, et on sort pas de la vallée de la Marne, avec des communes de la vallée de la Marne qui sont importantes, et vous avez représenté ça pour vous amuser sous la forme, pour faire comme si c'était un plan de RER. C'est en quelque sorte, d'ailleurs, on peut bien le dire, le CBR, c'était un peu le RER de l'époque.
Alors c'est exactement ce qu'on peut dire, c'est vraiment les mêmes, quasiment les mêmes distances, puisque ce CBR, il couvre la quasi-totalité du département de la Marne, en allant desservant des grandes villes, des petites villes, et il couvre aussi, il va jusque dans les Ardennes et dans l'Aisne. Mais donc vraiment, c'est les distances du RER. Par contre, les vitesses ne sont pas les mêmes. Mais c'est le...
Ah oui, c'était lent.
Ah, c'est assez lent, oui. Il faut pas loin de 2 heures pour aller de Châlons à Ambonnet. Donc, pour arriver jusqu'à Reims, on est plutôt à 3 heures.
Aïe.
Mais bon, voilà, c'est un train qui doit rouler à 30 km heure, peut-être 50 s'il est très en forme, mais c'est pas encore la grande vitesse.
Donc, aujourd'hui, en 3 heures, on est déjà en Italie.
Voilà, mais c'est le premier transport en commun véritablement efficace.
Oui. Alors, sur ce plan que vous avez, bon, je le rappelle, c'est pas pour nos auditeurs qui viendront voir l'exposition cet été ou cet automne à la médiathèque Pompidou, rue Léon Bourgeois à Châlons-Champagne. Ne soyez pas surpris. Alors, juste un petit aparté, ça finit le 30 septembre, donc ça nous laisse largement le temps. Et cette émission sera diffusée plusieurs fois de façon à ce que tout le monde puisse en entendre parler. Enfin, du moins, parlons des auditeurs de Radio Mono. Et donc en fait, ce plan, nos auditeurs qui viendront voir l'exposition verront ce plan qui ressemble à un plan de RER. Alors bien entendu qu'au début du XXe siècle, on ne représentait pas les différentes stations d'une ligne de chemin de fer ou de CBR de la même façon. Ça a été fait après, mais ça donne une idée.
Vous verrez dans le fil de l'exposition la représentation à l'époque de ce réseau. Et effectivement, pour parler, pour être plus parlant vis-à-vis du visiteur moderne, pour leur donner une idée de ce que c'était ce réseau et faire un petit peu rêver, parce que vraiment quand on voit ça, on rêve avec cette ligne qui ressemble à une ligne de RER entre Châlons, Reims et Pernay. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette représentation véritablement parlante.
D'accord. Alors, ce qui est amusant, enfin, ce que je remarquais surtout, c'est qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a une ligne qui est orange pour les communes qui vont de Rethel à, tenez-vous bien, Soissons. Donc, on va aussi un peu dans l'Aisne. On reste pas que dans la Marne, on va aussi un peu dans l'Aisne. Après, il y a le bleu qui part de Reims et qui va... Il y a une fourche à Bouleuse et avec une ligne qui va à Fismes et l'autre qui va à Dormans. Il y a une ligne verte qui va de Cormicy à Trépaille en passant par Reims et Cormontreuil.
Jusqu'à Embonnet.
Jusqu'à Embonnet, pardon. Il y a une ligne qui va de Chalon-sur-Marne à Embonnet et puis qui ensuite on a le choix de prendre la verte ou de rester sur la rouge pour aller jusqu'à Montmirail. Donc quand même là on est Montmirail, c'est quand même assez éloigné.
L'extrême sud-ouest du département.
Oui, l'extrême sud-ouest du département. Et puis ensuite on a la ligne violette qui part de Reims, elle aussi, et qui s'arrête à Asfeld.
Donc Asfeld qui est d'ailleurs aussi dans le département des Ardennes. Donc on a plusieurs parties de ce réseau qui sont en dehors du département de la Marne. C'est dire si cette compagnie, une compagnie privée qui gérait le CBR, a bien fait ses affaires en réussissant à avoir la gestion de lignes qui sortaient du département.
D'accord. Donc tout ça, c'est très intéressant. Alors, dans ce foisonnement de communes, pardon. Alors,
si tu veux que je t'en dise un petit peu plus. Donc là, on est en 1913, donc c'est la forme maximale du réseau. Alors le réseau, il débute dans les années 1890. C'est vers 1890 qu'on commence à faire les premiers projets. Et la première ligne, c'est justement une ligne qui part de Reims. Donc c'est en 1896 que la compagnie du chemin de fer de la banlieue de Reims est créée pour relier Reims et Verzy. Alors Verzy, donc, c'est trois stations, on va dire, avant Embonnet. Donc ça, c'est le premier tronçon. On est dans une ligne qui dessert effectivement vraiment la banlieue de Reims avec les villes à Champagne, les villages à Champagne à proximité de Reims.
Là, on est au plein cœur de l'appellation Champagne, enfin d'une de ses variantes, du moins c'est le Champagne de la montagne de Reims avec le phare de Verzenay et puis la forêt de Verzy avec ses arbres tout tordus.
Voilà, donc c'est à la fois c'est une ligne qui a une grande importance économique et qui, d'une certaine manière, c'est la première ligne créée et tout au long de du fonctionnement du CBR, c'est celle qui rapportera le plus, qui marche le mieux économiquement. Donc ça, c'est la première ligne qui est créée. Elle ouvre en 1896. Dès avant cette ouverture en 1896, les autres villes du département sont très intéressées par le CBR. Alors il faut préciser quand même que le CBR, donc ce chemin de fer, alors c'est un petit train qui arrive alors qu'il existe déjà le grand train, c'est-à-dire la grande ligne, les grandes lignes telles que notamment Paris-Strasbourg via Dormans, Épernay et Châlons existent déjà. Donc le transport en train n'est pas nouveau. Il rallie et à cette époque, toutes les sous-préfectures de la Marne sont ralliées, sont rattachées par les grandes lignes de train. Le CBR, donc ce petit train de la Marne, il est là pour desservir les campagnes. À un moment où on n'a pas de voiture. Donc le CBR, il vient prendre le relais des transports à cheval, des voitures omnibus à cheval ou des charrettes pour le transport de matériel. Mais donc c'est ça son utilité, c'est de faire le lien entre les campagnes et les plus grandes villes. Et on devine à quel point c'est important pour le champagne, pour d'autres productions agricoles. Il a de l'importance aussi pour les productions de betteraves qui sont importantes dans certaines zone du département, et il est aussi très important pour les Marnais, puisque manifestement à cette époque les gens ont pas mal besoin de bouger, ont régulièrement besoin d'aller de la campagne à la grande ville pour leurs affaires, pour des démarches, de sorte que ce train, et il y a un peu une énigme historique là-dessus, le CBR, contrairement à d'autres petits trains qui se développent énormément dans les départements à cette époque, est un train qui transporte plus de voyageurs que de marchandises. Et pourtant, on devine que chez nous, avec le champagne, les marchandises, c'est important, mais les hommes qui se déplacent sont encore plus importants. Donc on est vraiment plus proche d'un métro ou d'un RER que d'un train de marchandises.
Parce que c'est vraiment bizarre d'imaginer ça, parce que moi j'ai une image de cette époque. Là j'ai plein de questions à te poser sur l'époque de la période 1913. Déjà on se demande pourquoi on s'imagine au départ qu'il s'agit principalement de transport de marchandises avec le champagne produit pour être vendu dans les villes ou pour être exporté d'une part, et d'autre part les pommes de terre, les betteraves, enfin toutes les productions qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et on avait du mal à s'imaginer qu'il y ait autant de gens qui prennent ce moyen de transport, parce qu'à l'époque, on s'imagine, quand on voit des photos d'archives de la Première Guerre mondiale, les gens étaient bien chez eux quand même. La France était à 90% rurale et les gens restaient chez eux dans leur village. C'est ça que je ne comprends pas.
Ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on a toujours cette idée que les gens d'il y a 50 ans, 100 ans, 400 ans se déplaçaient beaucoup moins que nous, et c'est vrai, mais ils se déplacent aussi beaucoup plus que ce qu'on imagine. Quand on regarde dans les sources historiques, on s'est rendu compte qu'au Moyen-Âge, les gens bougeaient beaucoup, qu'à l'époque, à l'Ancien Régime, les gens bougeaient plus qu'on imaginait, ils passaient pas mal de temps sur les routes, et donc, en ce début de 20e siècle, ils ont des besoins. Sans doute administratif, sans doute parce qu'ils vont aussi aller trouver certains commerces, ils vont certainement aller faire des courses à Chalon, pour dire les choses de manière triviale. Donc voilà, donc il y a vraiment des besoins qui font que pour le coup, donc très rapidement. Peut-être que je reviendrai après sur la création de la ligne Chalon-Reims via Embonnet, mais cette ligne, donc Chalon-Reims via Embonnet, elle est créée avec trois allers-retours, et dès le début, il y a des pressions pour passer de trois allers-retours par jour à quatre allers-retours par jour. Donc le matin, autour de midi et le soir. Ça en fait que trois. Je ne sais plus quel est le quatrième, désolé. Si tu veux, on pourra voir ça dans la suite de l'expo. En tout cas, voilà.
D'accord, c'est énorme. C'est parce que à l'époque, à notre époque à nous, on n'a pas l'impression que les gens bougent autant. On serait carrément dans le Paris des années 2000.
Hey, mais ils n'avaient pas la visio.
D'accord. Donc, est-ce que tu me confirmes quand même que ça a servi au transport de marchandises ?
Oui, ça, je te le confirme. Et d'ailleurs, on pourra le voir. Ça sert donc, comme je te disais, transport de betteraves, le champagne. Oui, certainement, même si c'est pas ce que j'ai le plus étudié sur.
Il me semble que le champagne, c'était surtout le chemin de fer, enfin le vrai train.
Oui,
train de marchandises.
Mais il faut faire le lien, c'est-à-dire que pour aller de. Enfin, il faut transporter le champagne depuis les points de production jusqu'aux gares. Et les gares, des grandes lignes, elles sont à Reims ou elles sont à Chalon. Mais le train grande ligne ne passe pas par la montagne de Reims.
D'accord. On va en revenir à ma première question. Mais c'est vraiment surprenant quand on vient voir ça. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je me suis dit, c'est comme s'il y avait eu une période contemporaine 100 ans auparavant. Deux dernières questions. Donc la première, c'est pour celle-ci, pour répondre à celle-ci, que j'avais voulu qu'on voit ce schéma des voies, des lignes. Quelles sont les villes les plus importantes dans toutes ces villes qui sont présentées ? Parce qu'elles sont présentées toutes à égalité, on n'a pas l'impression qu'il y a de différence, elles sont toutes écrites avec la même taille de caractère, la même couleur. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors,
qu'est-ce qui ressortirait pour toi ?
Alors, en pratique, tu as quelques points qui ressortent, soit donc tête de ligne, soit les éléments de correspondance. C'est vrai que, par exemple, dans ce réseau, réseau. Donc il y a une ville qui ressort un petit peu du lot, c'est Ambonnet, donc qui se retrouve avec
à la croisée des chemins.
Ces conventions de plan de RER au même niveau que Châlons ou qu'Épernay, presque plus grosse. Mais c'est pas absurde, parce que Ambonnet, alors c'est une ville à Champagne, c'est une ville qui s'est battue pour avoir le chemin de fer et pour être tête de ligne à la croisée de ces trois lignes que sont Reims-Ambonnet, Châlons-Ambonnet et Épernay-Ambonnet, et elle en bénéficie certainement. Je pense que du coup il y a une gare plus importante, certainement des ateliers, enfin toute une activité qui a dû
ça crée des économies d'échelle, quoi, avec effet d'agglomération.
Ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi, ça crée des chefs de gare, des gens qui travaillent à la voie, des gens qui vont travailler au transport de marchandises. Voilà, c'est une ville qui a su bien tirer son épingle du jeu.
D'accord. Et tu m'as fait ressortir en bonnet, mais il resterait quand même les villes de Épernay, Châlons, Reims.
Les autres grandes villes qui sont reliées au réseau. Donc, il y a Montmirail qui est très excentré. Effectivement, donc la ville de Reims, Dormans, donc qui est importante également et est rattachée au par ailleurs à la ligne Paris-Strasbourg. Et puis Fismes. Fismes qui était également importante le projet de ligne Dormans, donc pour rattacher Dormans et Fismes à Reims, paradoxalement est le plus ancien. Il datait d'avant les années 1890 et il a été réalisé juste après cette ligne Reims-Verzy dont je parlais. Cormicy est également une ville importante, et évidemment donc Soissons et Rethel, donc côté Ardennes et côté Aisne, sont également les villes importantes du réseau.
Très bien. C'est très intéressant tout ça. Ça permet de mieux connaître la Marne. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des villes qui sont ailleurs, hein. Soissons, par exemple, Rethel. Rethel, on est dans les Ardennes, non ?
Rethel, on est tout à fait dans les Ardennes, oui. Ouais. Asfeld, Rethel, on est dans les Ardennes.
Asfeld, d'ailleurs, c'est un nom anglais. Je me suis toujours demandé d'où ça venait. Mais enfin, bon.
Alors, je ne saurais pas en dire beaucoup plus. Château Porcien, enfin voilà. Donc, effectivement, on a quelques noms ardennais. Et on pourra peut-être en reparler, mais on a aussi, alors un petit doigt de cette ligne orange qui est Corbeny, mais la station avant Corbeny, je te laisse.
Craon.
C'est Craon.
Craon.
Le fameux Craon de la Première Guerre mondiale.
Alors que s'est-il passé à Craon ? Ça va nous instruire.
Eh bien, alors si tu veux, on peut en parler tout de suite. Donc,
oui.
Là, on voit le réseau tel qu'il est en 1913. Un an après 1913, c'est 1914. Et donc, ce réseau, il va être presque entièrement dans la zone qui a été occupée par les Allemands pendant la première...
La guerre des tranchées.
Avant la guerre.
La première vague d'assaut.
C'est ça, oui. C'est jusqu'à la bataille de la Marne. Donc, au moment où se tient la bataille de la Marne, donc en septembre, début septembre 1914, tout le réseau qu'on voit est entre les mains allemandes. Et ça a mis une grosse pagaille, mais finalement donc l'essentiel a été libéré assez rapidement. Donc il n'a été occupé par les Allemands que pendant à peu près un mois. Mais donc à partir de la fin de 1914, le front se stabilise au nord de Reims. Si bien qu'on a toute une partie du réseau du CBR qui est, on va dire, le quart nord-est, qui est entre les mains allemandes. On a toute une partie qui est véritablement sur le front ou dans les zones de bombardement et qui ne roule plus ou qui roule uniquement pour des raisons militaires. Et les Allemands, de leur côté, se servent des lignes CBR pour tout ce qui est logistique militaire. Donc on se retrouve dans une situation où le CBR va passer à Reims très difficilement et va servir pendant toute l'année 1915 à l'évacuation de la ville de Reims, où une branche spéciale du CBR est créée pour approvisionner le fort de Pompel, qui défend la ville de Reims, pendant que côté allemand, le CBR va certainement servir à ravitailler les forts qui bombardent la ville de Reims. Donc voilà, ce CBR, pendant la guerre, il est...
À double emploi.
Il est à double emploi. Et alors, pour le coup, c'est un sujet que j'espère pouvoir un tout petit peu approfondir. C'est très compliqué parce que pendant ce temps-là, le service civil se maintient. Il y a encore des civils qui vont utiliser notamment la ligne Châlons, Ambonnet, Épernay, Montmirail.
Dans la vallée de la Marne pure et dure, dans la pure vallée de la Marne, ça reste comme avant. Mais c'est oui.
Ça reste pas comme avant. Il y a beaucoup de convois militaires, mais il y a aussi des convois civils, et les gens peuvent continuer à prendre leur abonnement sur le CBR. Pourtant, c'est une époque où des civils à Châlons, une bonne partie, sont partis.
C'était l'époque des taxis de la Marne.
Alors, on est après les taxis de la Marne, mais ouais. Alors là, justement, c'est parfait parce que donc ça nous permet de, si tu veux, on peut évoquer tout de suite la fin de cette histoire, et puis ensuite on verra les éléments de l'expo. Les taxis de la Marne, ils annoncent un peu le début de la fin pour le CBR, puisque donc le CBR, il est détruit pendant le réseau et les véhicules sont très endommagés pendant la guerre. En 1918, les frais de reconstruction du CBR sont énormes, mais ça se reconstruit. Ça se reconstruit en gros pendant vers 1923-1924, la reconstruction est achevée, et à ce moment-là, problème, le réseau ne réussit pas dégager des recettes. Parce que, en 1923-24, c'est déjà le début du transport automobile, c'est déjà le début des premières compagnies d'autocars, et donc il y a une concurrence entre autocars et trains qui est fatale au train. Pour faire simple, dans les années qui suivent, les lignes vont progressivement être donc d'abord voyageurs, puis les lignes des transports de marchandises sont progressivement supprimées et remplacées par des autocars et des camions. C'est l'affaire d'une dizaine d'années, entre 1925 et 1935. En 1938-39, presque toutes les lignes du CBR sont déclassées, désaffectées. De sorte que quand commence la Deuxième Guerre mondiale, le CBR est déjà de l'histoire ancienne, au moins à Châlons.
Très bien. C'est pour ça que personne ne s'en souvient.
Alors, il y a des gens qui s'en souviennent, parce que par contre, les rails du CBR, certains rails du CBR sont restés un peu plus longtemps. Il y a un souvenir du CBR, et puis
On en a un devant les yeux.
Il y a aussi un souvenir du tramway de Reims, de Châlons, je veux dire, dont là aussi, les rails sont restés un certain temps. Donc ça, on pourra en parler après.
Est-ce que le CBR empruntait les mêmes rails que le tram ?
Alors, oui et non. Une partie. Le CBR louait une partie de la voie du tramway de Châlons pour aller jusqu'à la gare de Châlons.
D'accord, ok. Et ce tram de Châlons, il allait d'où à où ?
Alors, ce tram, on peut avancer un petit peu. Donc, après, on va revenir sur la...
Tout à fait.
Sur la maquette. Une partie de l'exposition est consacrée au tramway de Châlons. C'est la partie pour laquelle on avait plus de documents dans les archives municipales. Autrement, les documents qu'on présente viennent plutôt des archives départementales, puisque ce CBR est avant tout un équipement départemental. Alors, si on avance encore un peu, voilà, tu vois... un train qui représente donc à ce moment-là un projet de tracé du tramway. Donc on voit qu'on a une ligne, donc on a le train, donc ce tramway qui part de la gare, va aller jusqu'à la place de l'hôtel de ville, et là on a une bifurcation, donc une partie avec un itinéraire qui va vers la porte Saint-Jacques, donc place de Verdun actuelle. Comme je dis parfois, il passe devant la médiathèque, mais elle n'était pas encore là. Et puis un autre itinéraire qui, lui, va vers la porte Saint-Jean et l'entrée de Saint-Mémy. Et côté faubourg de du côté de l'ouest, donc en plus de la ligne qui va à la gare qu'on voit sur ce plan, il y a une autre ligne qui a été créée, un petit tronçon, qui allait jusqu'à la brasserie de la Comète, la grande brasserie de Chalon, extrêmement importante
à cette époque. D'ailleurs,
qui était rue de Paris.
D'accord. Et elle est restée longtemps ?
Alors, la brasserie en question, alors là, elle est restée plus longtemps que le CBR. Par contre, je serais incapable de donner les dates exactes de fin d'activité. Mais en tout cas, effectivement, elle a survécu au CBR.
D'accord.
Et, et tu vois une belle photo qu'on a représentant donc ce tramway. On va dire wagon unique, enfin wagon unique, c'est à la fois le wagon et la motrice. On voit qu'on avait de la publicité sur le donc au-dessus du wagon. La fleur des neiges, je suppose qu'il devait s'agir d'un produit pharmaceutique, avec toute une foule qui le suit. Alors on ne sait pas de quel événement il s'agit, et on espère qu'un jour quelqu'un nous donnera le fin mot de l'énigme.
Ouais.
On a des gens qui donc on a cette photo avec le CBR suivi par tout un défilé. Il me semble qu'on aperçoit des éléments de fanfare, il y a des drapeaux, ça fait penser à une célébration type 14 juillet.
On voit que les femmes ont des belles toilettes,
voilà.
Sont en liesse.
C'est ça. Alors c'est des toilettes qui sont des toilettes début 20e, c'est avant la Première Guerre mondiale. On doit être dans les années 1910.
D'accord, très bien. Là, on voit le dessus de la pharmacie actuelle qui se tient à l'entrée de la place Foch.
Non, Foch. Là, on est dans une rue qui n'existe plus. Puisque là, en gros, actuellement, ce serait la Plasticier. On est dans les rues qui ont été donc modifiées après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je crois que c'est au niveau de la rue des Trésoriers. Rue de Vaux, rue des Trésoriers.
Très bien. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se mette une petite musique en intermède rapide, enfin, histoire de couper un peu l'émission en deux, que ça puisse aussi être un peu musical?
Je t'en prie, je n'ai aucune...
Est-ce que tu aurais une idée de quelque chose?
Alors, je n'ai pas du tout de suggestion musicale en lien avec le CBR. Ouais, c'est une com.
Oui. Moi, je proposerai quelque chose à ce moment-là. Je me permets de prendre l'initiative. C'est une chanson de Aerosmith, Back Train.
Eh bien, je ne connais pas.
Alors, tu verras, c'est un groupe de rock qui est assez. Je fais partie du très grand groupe de rock. Et ils chantent, c'est une espèce de blues, mais à la façon du chanteur d'Aerosmith. Je vous le fais passer et tu me diras, Pierre, après ce que tu en penses. Alors, on va continuer. Oui, on a quand même bien fait le tour. Donc, en fait, il y a le tramway Thialens-sur-Marne. Donc, on ne va pas, avec Pierre, trop rester exhaustif parce qu'après, on déborde sur notre temps d'antenne. Et on a plein de gens qui veulent visiter l'expo et on bloque tout, là, en ce moment. Mais le tramway Thialens-sur-Marne, c'est à voir. C'est vraiment intéressant. Allez voir, on ne peut pas tout raconter. Les Chalonnais purs et durs et qui ne vont jamais à la médiathèque et qui entendent mon émission, allez vite, 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 vite à la médiathèque. Vous avez jusqu'à fin septembre pour voir cette exposition et vous allez peut-être y retrouver des éléments intéressants que vous avez connus quand vous étiez plus jeune ou que vos parents ou vos grands-parents vous ont raconté. Donc il y avait le tramway, il y avait le train et il y avait, on en revient au CBR, il y avait le CBR. Alors
c'est là qu'il faut absolument qu'on parle de la, qu'on montre la maquette qui est le clou de l'exposition.
Cette fameuse maquette, rien que pour ça il faut se déplacer, ça sera certainement l'enchantement des enfants. Simplement, j'avais deux ou trois questions à te poser sur la maquette. L'exposition a été très bien décorée. Je pense que c'est une exposition que vous préparez depuis longtemps, puisque outre des affiches que vous deviez déjà posséder auparavant, il y a aussi eu un travail de mise, de recherche des archives relatives au plan, notamment. Et puis, il y a tout le travail de calligraphie pour l'affiche de présentation de l'expo, ainsi que le petit journal qui est offert aux visiteurs, et aussi avec la fameuse maquette. Et pour la maquette, vous avez certes sous-traité, je ne pense pas que vous ayez eu une formation de modéliste, et vous avez sous-traité avec quelle société ?
Alors en fait, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que cette maquette, c'est l'œuvre de l'association l'association des modélistes chalonnais. Mais c'est eux en fait qui nous ont proposé le projet, qui avaient l'idée de travailler de réaliser cette grande maquette illustrant le CBR dans Chalons, montrant une rencontre du CBR et du tramway au niveau du pont de l'Écluse et de l'hémicycle, et qui se sont rapprochés de nous en nous proposant de monter une exposition sur ce sujet dont la maquette serait le cœur. Et ça s'est passé il y a à peu près un an et demi, avec des travaux de recherche pour réaliser la maquette. En fait, le gros des travaux de recherche a été fait pour la réalisation de la maquette, qui demandait tout un travail de connaissances, de repérage de documents cartographiques, de cartes postales permettant de savoir à quoi ressemblait exactement le quartier, les voies, les différents bâtiments.
Mais c'est drôlement intéressant parce qu'on est devant une ancienne poste, c'est bien ça, devant l'Hôtel Dieu, pardon. Oui.
Notamment, voilà.
Des choses qu'on n'a jamais vues à Chalons qui sont très belles. Et il y avait à l'époque un grand Hôtel Dieu qui a disparu après. Et la grande avenue qui va directement sur l'hôtel de ville, donc la rue de la Marne, juste après le deuxième pont en venant de la gare, avait une configuration tout à fait différente.
Alors, et qui avait en plus été à ce moment-là légèrement modifiée pour accueillir le CBR. Alors ce pont de l'Écluse, il a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu'une partie des bâtiments qu'on voit sur la carte. Mais on voit donc ce pont de l'Écluse, effectivement dans le prolongement de la rue de Marne, avec la ligne de tramway qui vient de la rue de Marne et qui passe dessus, la ligne du CBR qui vient de l'actuel boulevard Léon Blum, qui vient rejoindre la ligne du tramway sur le pont de l'Écluse, avec on voit que le tablier du pont a été modifié pour permettre donc au CBR de passer avec la courbe qui lui permettait de rouler sans dérailler, parce que donc voilà, il y a un certain il faut pas que la courbe soit trop aiguë pour le permettre au train de rouler. Voilà. Et puis on voit effectivement donc alors ce qui a à un moment été une entrée de ville, même si c'était plus le cas au 19e siècle. Donc on arrive avec les pavillons de l'Octroi. Avant la création du tramway et du CBR, il y avait encore une grille qui séparait, donc qui fermait cette place de l'hémicycle. Donc les pavillons de l'Octroi qui eux ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et derrière, les deux pavillons, enfin les deux bâtiments de la place de l'hémicycle qu'on a encore, qu'on connaît encore, et encore derrière, vers la gauche, on a ce monumental bâtiment de l'Hôtel Dieu, donc l'ancien hôpital de Châlons, également entièrement détruit en 1940.
Et en 1940, ce sont les Allemands qui l'ont détruit, de la même façon qu'ils ont détruit également la statue de Léon Bourgeois.
La statue de Léon Bourgeois, c'était volontaire, c'était pour récupérer le matériau. Là, il a été détruit dans des bombardements, et on a les photos qui montrent comment les toits les plafonds ont été entièrement démolis en juin.
Les bombardements aériens ?
Alors, sauf erreur de ma part, c'est les bombardements aériens.
D'accord. Ok, et puis...
Voilà, moi, donc, Sylvain Jésus, qui a participé à la création de la maquette, mais je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est le bombardement aérien qui a détruit les toits de l'Hôtel Dieu. Alors que, justement, il me disait il y a quelques jours que les pavillons de l'hémicycle, qui donc ont également été fortement endommagés en 1940, eux avaient plutôt été détruits par les combats d'artillerie, combats de chars, qui ont eu lieu dans les rues de Châlons lors de la prise de Châlons par les Allemands.
Au loin, on voit se profiler l'hôtel de ville tel qu'on le voit aujourd'hui quand on arrive par la rue de la Marne.
Ah, tout à fait, oui, l'hôtel de ville, et puis on devine.
Et on voit le jar.
Les flèches de Notre-Dame derrière l'hôtel Dieu.
Il n'y a que la cathédrale Saint-Étienne qui n'a pas été représentée.
Saint-Étienne n'a pas été représentée. C'était déjà un énorme travail de réalisation.
C'est magnifique et exceptionnel. Ouais. Alors, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont fait la crèche en Playmobil ? En fait, à Châlons-Champagne, et avant c'était la cathédrale Saint-Étienne, maintenant je crois que c'est Notre-Dame-en-Vaux, il y avait une crèche qui avait été faite entièrement avec des personnages de Playmobil. Ah oui, mais elle est à Notre-Dame-en-Vaux aujourd'hui. Elle est assez amusante, avec plein de petits détails, et je me demandais si c'était vous qui l'avez... Mais en tout cas, c'est magnifique, bravo, hein. Bah, justement, Pierre, si tu permets, est-ce que je peux en profiter ?
Alors, si, c'est bien...
Si, c'est pour une émission de radio qui s'appelle Mettre Résistance, et qui passe sur les radios Radio Galère à Marseille, une radio libre, et sur Radio Mono à Châlons-Champagne. Si vous voulez vous présenter à nos auditeurs pour dire qui vous êtes et puis comment vous... Je vous poserai deux ou trois questions sur la maquette.
Oui, donc je me présente, donc Sylvain Jésus. Je suis membre du club de modélistes chalonnais depuis 2 ans à peu près. Et puis donc j'ai été aussitôt intéressé par le projet de réalisation de cette maquette, hein, donc de tout ce lieu hémicycle et puis sur la partie gauche, donc garde du CBR jusqu'au garage et l'usine électrique du tramway. Donc cette réalisation-là, on l'a faite en 7-8 mois à peu près, avec de la documentation qu'on est allé chercher à la médiathèque et aux archives départementales.
Cette documentation, il y avait des photos beaucoup ?
C'était essentiellement des photos, justement issues du bombardement de juin 40, de ce qui restait de l'Hôtel Dieu.
D'accord. Vous aviez aussi des images de l'Hôtel Dieu avant juin 40 ?
Très peu, c'est les cartes postales qu'on voit encore ici. Les quelques cartes postales, voilà, mais elles sont beaucoup plus fréquentes sur l'hémicycle ou bien la rue de Marne. On ne voit pas vraiment sur tous les jardins de l'Hôtel Dieu, et donc on a dû faire preuve de beaucoup d'interprétations à partir de ces bribes d'informations. On a très très peu de plans cotés aussi, donc là aussi il a fallu jouer un petit peu des proportions par rapport à la taille d'une porte, d'une fenêtre, d'une hauteur de mur, oui. Pour après extrapoler et puis arriver à
réaliser. Vous êtes arrivé à faire quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la réalité. Mais alors, juste une petite question. Ici, moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est la préfecture ou quoi ? On a l'impression d'être, quand on est juste en face de la préfecture, mais de l'autre côté, vous savez, du côté...
Il y a plusieurs bâtiments à Chalon qui ont ce même style d'architecture.
Avec le jardin, la française ?
Les jardins, et puis ouais. Les constructions, surtout en craie et en pierre de savonnière, pour tout ce qui est les appareillages autour des portes, des fenêtres, les angles, tous ces reliefs-là sont faits avec ces pierres de, je crois que c'est dans Lorraine. Et donc, sinon, le reste, c'est soit de la pierre de grès, soit du moellon, soit de la craie, comme il y a beaucoup dans la région. Et donc ce style de construction, on le retrouve aussi, par exemple, les maisons de Champagne, Joseph Perrier, avenue de Paris.
Oui, Joseph Perrier, c'est typique. On dirait ça pourrait être celle-là aussi. Oui.
Tout à fait. C'est exactement le même style.
Avec pareil, un jardin devant qui ressemble un peu.
Bon, il y a aujourd'hui un petit espace qui a été remodelé, goudronné, tout ça, parking. Mais peut-être qu'effectivement, à l'origine, il y avait aussi ce type de jardin qu'on retrouve derrière la préfecture également. Et ces bâtiments-là, on les retrouve également du côté de la cité Tirlet. L'ancien bâtiment militaire, la cité Tirlet, était...
Oui, c'est vrai.
En craie.
D'accord, avec des bâtiments qui sont plutôt sur la longueur. Oui. Et vous étiez combien à fabriquer cette maquette ?
On était une petite dizaine, on s'est répartis donc les activités, l'un pour la menuiserie. Moi, je me suis beaucoup occupé des bâtiments donc qui sont faits en bois, en carton, et puis impression 3D pour les portes et les fenêtres. Et puis donc d'autres se sont attelés à fabriquer les arbres, la végétation, les péniches, l'écluse, les autres bâtiments, l'ancienne fabrique de chaussures, le collège. Voilà, ça a été un travail un petit peu à plusieurs personnes comme ça, de se partager les différentes activités en fonction un petit peu de nos compétences.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres choses à dire ? Parce que c'est vraiment intéressant, tout ça, dis donc. Et vous êtes chalonnais d'origine ?
Alors, je suis chalonnais depuis une cinquantaine d'années.
Ah ben, vous connaissez bien, alors, ouais. Mais vous ne l'avez jamais vu, ce bâtiment, en vrai ?
Non. Tous ces bâtiments-là, en fait, on a reproduit Chalon il y a 100 ans. Donc, voilà. Des personnes qui sont encore vivantes, qui sont conscientes de cette époque-là, je doute qu'il y en ait. Ça permet de se replonger dans le passé. Et puis surtout, comme je l'évoquais, à partir des quelques cartes postales, on a pu recréer tout un monde et puis s'imager un petit peu, remettre tout ça en scène. Et on est quand même fiers de notre réalisation.
Ouais. Non, c'est vraiment bien. Hein. Alors là, il y a le canal de la Marne qui coule avec un pont que je n'ai jamais vu.
C'est le pont Pochet. Ce pont-là, aujourd'hui, il existe différemment. Et il menait à l'ancien port. Et puis, de l'autre, sur sa partie gauche, c'est le canal qui continue vers Saint-Martin, Récy.
Oui, d'accord. Écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. Bonne continuation. Et vous avez d'autres projets ?
Pour l'instant, non. On se stabilise un petit peu avec ça.
On s'arrête là. Merci beaucoup. Passez un bel été. Merci.
Pour savoir quand vous passerez votre...
Alors, l'émission, elle va passer lundi prochain, une première fois. Et donc, sur Radio Galère, par contre. Vous tapez Radio Galère dans Google et vous écoutez en direct. C'est le lundi à 19h. Voilà. Mais je vous le redirai quand j'aurai fini. Vous verrez, c'est bien. Et puis après, j'ai fait plein d'autres diffusions, notamment à Mono, sur Radio Mono à Chalon-Champagne, pour donner aux gens envie de venir, puisque ça finit fin septembre. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. À Alors, Pierre, donc j'ai bien discuté avec notre ami de la modélisation, qui m'a expliqué plein de choses intéressantes. Il y avait même une dame qui voulait absolument savoir quand est-ce que l'émission allait passer. Enfin, voilà, elle veut écouter. Donc, voilà, merci pour cette opportunité. Et je ne sais plus sur quoi tu voulais reprendre. Une histoire rapide, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même deux panneaux sur l'histoire du CBR. Est-ce que ça vaut le coup? Comment ça a commencé?
L'historique, je te l'ai fait, effectivement. On parle de création, on parle du CBR dans la guerre, et puis on parle de la fin du CBR après la guerre. Donc ça, on peut passer.
Pour nos auditeurs qui habiteraient dans d'autres régions que dans la Marne, dans d'autres départements que dans la Marne, j'aimerais quand même qu'on éclaire un peu les choses. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Tout à l'heure, on se disait que c'était très surprenant qu'il y ait une activité de transport aussi foisonnante sur Chalon, dans la Marne, que sur les lignes de RER parisiennes. J'ai l'impression que c'est foisonnant, toutes ces villes, toutes ces communes. En plus, tu me dis que c'est pas principalement pour les marchandises, c'est pour les gens. Que font les gens d'une commune à une autre comme ça? Pourquoi ils se baladent autant? Pour le travail? C'est mystérieux pour moi. Alors, en même temps, j'ai essayé de trouver des éléments d'explication. Je me suis dit que aujourd'hui, il a peut-être manqué des usines dans certains départements du nord de la France, que la Marne en faisait partie, qu'elle était plus négligée, qu'on a du mal à imaginer que Châlons-Champagne soit une ville qui donne beaucoup d'emplois et ses communes environnantes aussi, et que par ailleurs on mésestime souvent les communes de l'Est, notamment celle de la Marne. Que c'était certainement un département qui était situé dans un endroit privilégié, disons-le bien, c'est sur l'axe Strasbourg-Paris. C'est pas loin de Paris, c'est pas loin de Strasbourg. Ça a certaines activités qui créent de la richesse et de la valeur ajoutée. Je pense au champagne, je pense à la betterave et même aux céréales. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est le département de la Marne, à l'époque, c'est un lieu riche, un lieu de pouvoir.
C'est encore une fois donc là-dessus l'explication il faut la chercher, c'est pas évident. Les archives nous disent pas forcément grand chose sur ce que font les gens, pourquoi est-ce que les gens prennent le CBR. On sait que le week-end, clairement il y en a qui le prennent pour aller se promener. Ça c'est net, on a des témoignages évidents. Donc là ça va, c'est facile. Pendant la semaine, est-ce qu'il y a une forme de transport pendulaire, comme on nous dit? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent le train le matin et qui reprennent le soir? C'est pas impossible, parce qu'il y a quand même des cartes d'abonnement. Il y a des gens qui sont abonnés au CBR, qui vont prendre, qui doivent, s'ils sont abonnés, c'est sans doute pour le prendre tous les jours. Donc voilà, il y a cette activité-là. Mais les archives ne renseignent pas tellement là-dessus. Il faudrait trouver une autre manière d'enquêter pour savoir exactement ce qu'ils font. Quand on a des archives qui nous parlent de quelqu'un qui prend le CBR et quand ça n'est pas pour des raisons de loisirs, ce que disent les gens, c'est qu'ils prennent le train pour leurs affaires. Et ils n'en disent pas plus. Alors, est-ce que c'est pour aller dans une administration? Est-ce que c'est pour aller rencontrer un commerçant? Est-ce que c'est pour faire des courses? Je pense que ça peut recouvrir tous ces éléments-là.
Pour faire des courses, les gens étaient si riches que ça à l'époque?
Je pense, ils devaient, pour certaines acquisitions, ils n'avaient certainement pas d'autre choix que d'aller à Châlons.
Très bien. Châlons qui, rappelons-le, est au Moyen-Âge, notamment sous Louis XI, faisait partie des villes qui accueillaient les grandes foires.
Alors, à l'époque et au XIXe siècle, Châlons est important par rapport à quand même quelques industries importantes. On a parlé de la brasserie tout à l'heure, et puis elle a une importance administrative très importante qui doit amener certaines personnes à s'y rendre, donc pour des raisons administratives.
Très bien.
Alors, par rapport à quelque chose qu'on évoquait tout à l'heure, les grandes lignes, tu peux voir ici donc Alors donc effectivement sur le panneau d'historique, on a justement une carte qui nous montre à quoi ressemblait le réseau des grandes lignes ferroviaires, donc hors CBR, en 1880. C'est impressionnant parce qu'il est plus développé que maintenant. C'est on a la ligne donc Paris-Strasbourg via Dormans, Épernay, Châlons, Vitry-le-François, qui va se poursuivre donc au-delà. On a la ligne Châlons-Reims, la ligne Épernay-Reims. On a ça c'est des lignes qui existent de nos jours. Par contre, ce qui n'existe plus, c'est la ligne Châlons-Sainte-Menou, qui, si je ne me trompe pas, se poursuit jusque vers Metz.
Oui, cette ligne-là devait être récente. Sainte-Menou, on la traverse quand même. Non, je dis n'importe quoi. Non, je confondais avec Mourmelon.
On peut plus.
Mourmelon le petit. Oui, ça te mène où c'est.
Tu as une ligne Châlons, Sommesoux, Arcis-sur-Aube, une ligne qui permet depuis Épernay d'aller à Fère-Champenoise, à Cézanne, à Anglure, jusqu'à Romilly-sur-Seine. Voilà, donc il y a des petites lignes qui ont été créées dans les années. Ça a dû se créer vers 1870. Donc en 1880, c'est une partie du réseau qui est toute récente, mais donc vraiment le réseau ferroviaire à une époque où l'automobile n'existe pas du tout a été très, très important. Sans même parler du réseau CBR, donc Petit Train de la Marne. Là, on est sur un réseau qui relie non seulement les grandes villes, mais même les sous-préfectures et les villes secondaires du département.
Très bien.
Autrement, donc, ce qu'on présente dans les. Donc, ensuite, les vitrines consacrées au CBR. Alors, vous avez trois vitrines. Une vitrine qui évoque la construction du CBR. Donc, on montre les plans, notamment donc, le plan de la gare de Châlons. Alors, cette gare donc, qui s'appelait Châlons-Port et qui se trouvait juste à côté du port, donc sur le canal, là. Donc le port de marchandises transporté par péniche. De Châlons, avec une activité importante. On voit qu'il y a plusieurs voies, avec en plus donc des voies donc du tramway qui le traverse également. On a une représentation. Alors, je vais pas faire tout le tour. On a une pièce assez curieuse juste après, donc qui est une borne en fonte du CBR. Donc, lorsque le CBR est construit, donc la ligne Châlons-Ambonnet, donc il y a d'abord une enquête d'utilité publique. Une fois que l'utilité de la ligne est confirmée et que le tracé est confirmé, donc il y a un bornage qui est fait. Et donc avec des bornes qui, donc principalement dans les champs, sont plantées pour bien indiquer donc la limite entre donc les champs et la zone qui appartient à la compagnie CBR. Donc ça c'est un prêt qui nous a été fait. Donc il existe plusieurs de ces bornes qui maintenant n'ont plus de rôle et qui sont des objets de collection.
Ça vient de la collection privée de Fernand Maillot
qui est ici et qui est donc un collectionneur spécialiste de chemin de fer qui nous a prêté donc cette borne et surtout alors une des plus belles pièces de l'exposition, c'est la plaque d'une gare donc plaque émaillée donc des années 1920 de la gare CBR de Tours-sur-Marne. Donc là on n'est pas sur la ligne Châlons-Ambonnet, mais pour les gens qui ne connaissent pas, on est si on descend la Marne depuis Châlons, donc on va arriver à Condé-sur-Marne. Là, quand on est à Condé-sur-Marne, le CBR va partir plein nord vers Ambonnet, mais si on continue à suivre la Marne, on arrive à Tours-sur-Marne.
À Tours-sur-Marne. Oui.
Voilà.
Condé-sur-Marne, c'est.
Tours-sur-Marne, lui, était sur le Châlons, le tronçon Ambonnet-Épernay.
Oui. Condé-sur-Marne, si je me trompe pas, c'est l'endroit où la Meuse rencontre la Marne pour le canal de la Meuse, c'est le canal.
On a le canal de la Meuse à la Marne et effectivement donc c'est le.
C'est là qu'on est obligé de tricher un peu sur vos pouvoirs, continuer à suivre le canal de la Meuse, bifurqué pour en suivant le canal de la Meuse en vélo pour aller jusqu'à Reims en vélo.
Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je te crois.
D'accord.
Et alors, alors le CBR, c'est un petit chemin de fer qui normalement roule dans les rues, qui roule sur le bas-côté des routes. Donc normalement, il y a peu d'ouvrages d'art, peu de constructions à faire. C'est pour ça qu'il est assez bon marché à créer dans les campagnes. Et parfois, il y a besoin d'ouvrages d'art. Et notamment, donc, comme on l'a dit, il y a une ligne de chemin de fer qui relie Châlons à Reims. Et le CBR, il est bien obligé de traverser cette ligne. Et il la traverse par un pont qui se trouve pas très très loin de Châlons, donc entre Saint-Martin et Recy. Donc on est à quelques kilomètres de Châlons pour les Marseillais. En pratique, donc, il doit passer par un pont au-dessus de la ligne de chemin de fer et avec une pente assez difficile, aussi bien pour la montée que pour la descente. Et c'est le plus gros ouvrage d'art de la ligne Châlons-en-Bonnet. Donc c'est modeste, mais c'est pour le train lui-même, c'est assez difficile à passer.
Très bien.
On passe
au matériel. Il n'y aura plus beaucoup de temps d'antenne, hein. 2 ou 3 minutes.
Donc, rapidement, on a une vitrine qui est consacrée au matériel et aux hommes du CBR. Donc, présentation de photographies, plans, catalogue du matériel, des photographies des hommes qui y travaillent. On a quelques photographies, notamment on voit une belle photographie, prêtée par Fernand Maillot, qui représente donc les ouvriers en train de travailler sur la voie avec les différents outils. Un plan assez fascinant de roulement des mécaniciens et chauffeurs, parce que une locomotive du CBR est associée à une équipe pour la conduire, le mécanicien et le chauffeur. Toujours, travaille toujours par deux, c'est toujours la même équipe. Le chauffeur, il est là pour assurer l'alimentation de la chaudière en charbon, en eau. Le mécanicien, il est plus particulièrement responsable de la conduite. C'est lui le responsable en dernier recours de la conduite de la machine. Et on voit qu'ils ont des horaires de travail absolument hallucinants. On a des temps où la locomotive roule ou est en préparation et donc où ils sont sur le pont de 180 heures sur 2 semaines. Ça donne, ouais. C'est vraiment la bête humaine.
Oui, c'est vrai. Il y a Émile Zola qui a écrit un roman là-dessus, mais c'est pas le CBR, c'était le chemin de fer.
À relire en ce qui me concerne. Ouais. Et puis une dernière vitrine qui évoque le quotidien de la ligne avec, alors par exemple, un dossier d'accident. Il y a eu un accident, alors il y a plusieurs accidents, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et chaque accident donne lieu à un dossier très, très complet pour comprendre ce qui s'est passé, éviter que ça se reproduise, déterminer les responsabilités en cas de procès. Donc là, on a l'exemple d'un train qui a déraillé en quittant la gare Grande Ligne, donc marchandises de Châlons, et donc juste avant d'atteindre le pont de Marne, et qui, donc en déraillant, a glissé sur la rive de la Marne et a failli plonger dans la Marne.
Oh là là.
Donc on a tout le dossier. C'était en 1913.
C'est une vraie catastrophe, ça.
On a des cartes de circulation, j'en parlais, donc là c'est la carte de circulation du préfet de la Marne. Et on a un dossier intéressant donc sur la construction d'un quai à Juvigny. Alors si tu regardes de près, donc plusieurs documents, on a le plan pour la construction de ce quai. et on voit donc que ce quai, c'est un quai pour l'embarquement des bestiaux et des marchandises diverses. Mais en pratique, c'était alors le chargement des marchandises se faisait déjà dans cette gare de Juvigny, mais il voulait effectivement avoir un quai spécifique pour charger facilement les bestiaux dans les wagons de marchandises du CBR. Et c'est dans ce cas-là, donc c'est la ville de Juvigny qui devait elle-même engager la dépense pour ces travaux. Mais ça nous montre un des usages de CAUS, ce CBR, donc le transport.
C'est donc CAUS.
Donc Juvigny avait manifestement besoin d'un quai pour charger des bestiaux, donc comme ça on sait quel était un des usages du CBR à Juvigny. Et le petit village de Vraux, voisin de Juvigny, a juste après également construit un quai de chargement des bestiaux. Voilà, ça c'est deux villages sur la ligne du CBR, et dans l'exposition, on a essayé justement de ne pas parler que de Châlons, mais d'avoir un petit mot, voilà, des éléments sur chacun des villages. Et donc effectivement, donc en plus, alors c'est vrai que ça c'est des villes qui actuellement font partie de l'agglomération chalonnaise. On parle de la ligne Châlons-Embonnet. En pratique, Châlons, donc à part Embonnet, toute la ligne se trouve sur le territoire actuel de l'agglomération.
D'accord.
Pour nous, c'est donc nous, on essaie de faire de la pub. Donc les habitants des villages de cette ligne, donc de Saint-Martin, de Recy, de Juvigny, de Vraux et de Condé-sur-Marne sont les bienvenus à l'exposition, et on a vraiment pensé à eux.
Et alors cette fameuse ville du Pape qui est aussi sur la vallée de la Marne.
Du Pape.
Oui. C'est-à-dire. Eh ben, il y avait un pape qui habitait, qui venait d'une des communes qui sont sur la vallée de la Marne.
Alors, je ne le connais pas, mais il y a des tas de choses que je ne connais pas.
Il faudrait que je retrouve ça. Alors, ça va être notre conclusion, Pierre, et peut-être qu'un jour, on aura la chance de faire ensemble une émission là-dessus. En fait, il y a une immense statue papale dans une des communes qui est sur le bord de la Marne.
D'accord.
Et cette immense statue papale, elle représente un pape qui a été pape donc au Vatican, mais qui est né dans cette ville, pas très loin d'ailleurs, d'autres communes de Dormans.
Alors là,
je t'en parlerai une autre fois, parce que là on va...
J'attends que tu m'en dises plus.
Oui, d'accord. On va dépasser notre temps d'antenne. En tout cas, l'émission était fantastique. Vraiment, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses à dire. La plaque sur la de Tours-sur-Marne, là, c'est une vraie merveille. Elle a été entièrement rénovée, ça se voit. Enfin, nettoyée, du moins.
Ah,
ouais. Et il y a même des affiches avec les tarifs de l'époque. On ne peut pas rester trop longtemps.
Voilà,
et si tu avais d'autres choses à me dire, il ne faut pas hésiter à me le proposer. On reprend une autre émission.
Et alors juste pour finir, mais du coup, on ne parlera pas de la carte de la Marne en 1918, qui est une carte qui normalement tient les visiteurs qui s'y intéressent pendant une vingtaine de minutes et qui représente tous les moyens de transport qui ont été construits par l'armée en 1918, donc pour lorsque c'est le front. Et donc voilà, ça c'est une carte fascinante.
Je vais vite aller la voir.
Voilà, il faut venir la voir, parce que là, en parler, ça ne sert à rien, c'est trop compliqué.
Voilà, moi je vais vite aller la voir. Je conseille à tous nos auditeurs qui viennent voir l'exposition d'aller la voir aussi, tout comme plein d'autres choses. Et puis de se servir, il y a le petit journal du CBR. Et on va finir cette émission en se disant, pourquoi ne pas imaginer qu'un jour on puisse remettre en place le CBR dans la Marne, pour aller de commune en commune, si jamais un jour nos politiques en matière de transport évoluaient. Je ne sais pas, qu'on fasse en sorte que les gens prennent moins leur voiture et plus le train, par exemple. Qui sait ?
C'est sûr que c'est pour ça que ça fait rêver, ce plan du CBR.
Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt.
À bientôt.
Rajoutons une dernière chose sur cette exposition sur le CBR, pour que nos auditeurs n'en ratent pas une miette. Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler à la fois le timing de l'expo, qui, je crois, dure longtemps, on a tout l'été pour la voir, et une partie de l'automne, et d'autre part, les autres rendez-vous qui se sont greffés autour de cette expo?
Alors l'exposition va durer jusqu'à la fin du mois de septembre, donc jusqu'au samedi 27 septembre si je ne me trompe pas, donc en tout cas jusqu'au dernier samedi de septembre, avec un ensemble d'événements à l'occasion des journées du patrimoine. Donc vendredi soir à 18h à l'auditorium de la médiathèque, une table ronde d'à peu près une heure et demie consacrée au CBR avec un historien et le président de l'association des modélistes chalonnais. Donc l'historien, donc c'est Fernand Maillot qui nous prête certaines des pièces de l'exposition. Et puis le samedi des journées du patrimoine, il y aura deux visites guidées de l'exposition. Donc voilà, s'il y a des amateurs de train parmi les auditeurs, j'espère les y voir nombreux, mais pas trop parce qu'on est limité à 15 personnes.
Et puis c'est impressionnant, on évolue, pour ceux qui aiment les trains et le chemin de fer, les mini chemins de fer, on évolue dans le décorum de Chalon il y a 100 ans de ça.
Et alors pour les auditeurs qui ont des enfants ou des petits-enfants qui s'intéressent au train, l'association des modélistes chalonnais animera des ateliers à destination de jeunes publics pour manipuler justement des trains électriques, et à l'issue de cette journée, ils pourront repartir de la médiathèque avec leur brevet de mécanicien ferroviaire ou quelque chose comme ça. Donc ça devrait faire rêver certains enfants.
Oh là, ah oui, ça c'est sûr, moi je suis persuadée qu'il y a des enfants qui ont de ça, il faut absolument que vous demandiez à vos parents d'aller aux journées du patrimoine à la médiathèque Pompidou au Chalon-en-Champagne. Merci à tout le monde. Au revoir.